Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Comme toujours, mais plus encore aujourd'hui, vos réflexions et témoignages sont attendus sur notre site au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Comment adoucir le traumatisme des victimes du 13 novembre ? Il y a une semaine, le vendredi 13 novembre 2015, il faisait doux sur Paris. Une série d'attentats alors ensanglanté la capitale. Le bilan actuel fait état de 129 morts et 352 blessés. Des milliers de personnes proches de ces victimes ont été directement touchées par ce drame. Des dizaines de milliers ou plus d'autres personnes ont appris qu'une connaissance plus lointaine ou des amis d'amis ont été blessés ou tués. Et des millions de personnes sont restées pétrifiées devant leur écran de télévision face à ces images insoutenables. Ce massacre s'est déroulé dans des quartiers, des rues, des restaurants qu'ils connaissaient bien, ou au Bataclan. Des enfants assistaient à ces scènes diffusées en boucle sur les chaînes d'information en continu. Ainsi, les blessés, tout d'abord, mais aussi tous les témoins, et à des degrés divers, sont concernés et parfois profondément touchés par le cauchemar du 13 novembre. Bien entendu, la vie continue, comme on dit, dans les circonstances même les plus tragiques. Mais comment continue-t-elle pour ceux qui restent meurtris par le souvenir de ce qu'ils ont vécu ou de ce qu'ils ont vu ? Juste après les premiers attentats à la bombe, en 1995, qui ont fait 8 morts et près de 200 blessés en France, des cellules d'urgence médico-psychologiques, les CUMP, ont été créées pour prendre en charge les blessés psychiques en liaison avec le SAMU. Ce sont elles qui interviennent au plus tôt, après les événements traumatisants, pour aider les victimes grâce à des entretiens. Ces débriefings ont pour objectif d'éviter que ne se développe un état de stress post-traumatique, un ESPT. Ce trouble de la mémoire engendre l'intrusion irrépressible de souvenirs des scènes traumatisantes. Il faut donc soigner, car il provoque des sentiments de désespoir ou d'horreur qui se traduisent par une anxiété pouvant avoir des conséquences sur la santé. Pour mieux comprendre ce qu'est ce stress post-traumatique, comment on peut le diagnostiquer, de quelle manière il est possible de le soigner, nous recevons aujourd'hui dans Sciences Publiques, en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio, Marianne Kedia, docteur en psychologie clinique, spécialiste du trauma, Gérard Lopez, psychiatre, initiateur des cellules d'urgence médico-psychologiques, les CUMP, donc créées en 1995, et Aurore Saboureau-Séguin, psychiatre et cofondatrice de l'Institut de Victimologie et directrice du Centre de Psychotrauma de cet institut. Je vous rappelle que nous attendons particulièrement donc pour cette émission vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Gérard Lopez, bonjour.
Bonjour.
Alors avant de parler de ces cellules d'urgence médico-psychologiques, les CUMP, je propose de commencer cette émission en précisant ce qu'est ce choc psychologique que peuvent ressentir les victimes et les témoins de drames tels que celui du 13 novembre à Paris.
Eh bien écoutez, quand on est confronté à un événement aussi dramatique que ces attentats, on ne peut pas les élaborer et bien souvent, le cerveau disjoncte, il n'y a que le cerveau émotionnel qui se met en marche et on ne peut plus réfléchir. Si bien que les gens se trouvent au maximum comme le lapin dans les phares de l'automobile, mais d'autres vont avoir des comportements automatiques, d'autres on va avoir le sentiment qu'ils sont spectateurs de ce qui se passe. Plus on se dissocie, parce que ça s'appelle comme ça, se dissocier, plus on va présenter des troubles psychotraumatiques. Plus on aura de la détresse, plus on va présenter des troubles psychotraumatiques. Et l'importance des cellules, c'est d'intervenir le plus tôt possible avec le SAMU, pour repérer les gens qui sont dissociés, qui sont comme ça, un petit peu étranges, abstraits de la réalité, pour les faire recoller le plus vite possible à la réalité, pour limiter la survenue du trouble de stress post-traumatique.
Alors justement, on verra ces deux phases en fait, hein, c'est-à-dire la réaction immédiate et puis ensuite ce qui peut se développer, ce fameux syndrome. Aurore Saboureau-Séguin, bonjour.
Bonjour.
Donc vous avez participé à la fondation de l'Institut de Victimologie. Alors quel est l'objectif d'un tel institut ?
Ben disons qu'on a créé ça avec Gérard Lopez en 95, justement après les attentats qui ont eu lieu dans le RER, où on s'est aperçu avec des discussions que il n'y avait pas de centre, il n'y avait pas de projet pour ces personnes victimes psychologiquement. Hein. Les victimes qui avaient des blessures physiques allaient à l'hôpital, pouvaient éventuellement voir un psychiatre, mais les autres disparaissaient quelque part dans la nature. Et effectivement, on s'est aperçu que quelques mois, voire des années, une année, deux années plus tard, les gens pouvaient revenir avec des symptômes qu'ils comprenaient pas. Et donc, il nous avait semblé important de faire ce que nous, on appelle de la psychoéducation, c'est-à-dire d'expliquer ce que c'était, d'expliquer pourquoi on ressent ça, d'expliquer ce qui se passe au mieux que de nos connaissances, et de proposer des actions et, du coup, au centre, une thérapie.
Alors, ça veut dire qu'avant 1995, en France en tout cas, cette approche n'existait pas?
Alors, ce type d'approche, non, mais il existait la névrose traumatique, les hôpitaux, enfin les médecins militaires connaissaient bien ce problème, mais il était vraiment dans la sphère souvent militaire, hospitalière. Mais non, moi, quand j'étais jeune, j'ai appris la sinistrose, par exemple, qui est les patients emmerdants qui ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes résoudre. Ils ont été dans une situation traumatique, ils n'ont pas su y répondre par eux-mêmes. On s'aperçoit avec le temps que même s'il y a de la résilience, les événements traumatiques extrêmement violents comme ça provoquent des symptômes de toute façon, provoquent un état de choc. Après, la façon dont on va digérer cet état de choc, évoluer, ça va dépendre de beaucoup de facteurs.
Très bien. Marianne Cadia, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes un spécialiste de ce traumatisme. Comment vous pourriez le définir?
C'est vraiment l'idée qu'à un moment donné, on est confronté à une situation extrêmement violente qui fait très très peur en général et qui va entraîner des modifications au niveau du fonctionnement cérébral notamment, et puis aussi beaucoup de réactions dans le corps. Et ces réactions-là qui sont très communes et très fréquentes dans les premières heures et les premiers jours suivant un événement difficile vont évoluer différemment avec le temps. Et effectivement, tout le monde, et même la plupart des gens en fait, hein, même dans des événements de ce type-là, ne vont pas développer un trouble, mais en revanche vont avoir une réaction de choc. C'est vraiment l'idée d'une blessure psychique, et comme toutes les blessures, elles sont plus ou moins graves, elles se réparent plus ou moins vite, et la fonction du psy dans ces cas-là, c'est d'accompagner remise en route, de voir comment on peut faire en sorte que certaines personnes se soignent par elles-mêmes aussi bien, et des pratiques qui les aident à surmonter cet événement pour éviter de développer un trouble, et si jamais un trouble apparaît, pouvoir continuer sous la forme d'une prise en charge psychothérapeutique à proprement parler.
Alors, une des difficultés, j'imagine, c'est que, contrairement aux blessures physiques, ces blessures-là sont moins visibles et sont difficiles peut-être à diagnostiquer, et je pense aussi, probablement, mais ça vous allez nous le confirmer, que les réactions des individus sont très différentes suivant leur passé, suivant la façon dont ils sont touchés pendant les événements. Est-ce qu'il est facile de diagnostiquer les personnes les plus fragiles, Gérard Lopez?
Les plus fragiles, ça non. On sait en revanche que les gens qui ont subi des maltraitances dans l'enfance, par exemple, c'est 10% de la population. Que les femmes qui ont subi des violences sexuelles dans la vie, c'est 20% de la population, c'est 8% des hommes. Ces personnes-là sont plus sensibles aux événements traumatiques. Mais c'est tout, hein, ça dépend un petit peu des jours.
Alors, Marianne,
oui, après, il y a un certain nombre de réactions immédiates quand on est confronté à l'événement qui sont indicatrices d'un probable trouble à venir. C'est pas systématique, mais on sait, ce que disait Gérard tout à l'heure, que les personnes qui ont beaucoup de mal à se reconnecter rapidement avec la réalité, qui ont très vite beaucoup de flashbacks, donc des images intrusives qui reviennent dans la journée de l'événement lui-même, des cauchemars, des choses comme ça, tous ces signes-là dans les premiers jours sont normaux. Mais dans une certaine proportion, dans une certaine intensité, ils vont indiquer que la personne est à suivre d'un petit peu plus près pour voir comment ça va évoluer dans les semaines qui viennent, notamment dans le premier mois. C'est ça qu'on va beaucoup regarder, voir si ça diminue tout seul ou bien si ça se maintient, voir si ça augmente. Et les personnes dont on voit que les réactions ne diminuent pas sont plus à risque de présenter un état de stress post-traumatique à l'issue de ce mois.
Aurore Sabourot-Séguin.
Je crois que ce qui est important de dire, enfin, ce qu'on est en train de dire, c'est que quand on est dans une situation comme ça, on a une réaction. C'est pas possible de ne pas en avoir. On a une réaction émotionnelle, une réaction physiologique, biologique, et puis éventuellement une réaction comportementale. Et elle est tellement forte, tellement brutale et tellement inattendue, on ne la contrôle pas. Elle se met en route, qu'effectivement, dans les jours qui suivent, les gens vont se poser la question de savoir pourquoi j'ai réagi comme ça ou comment j'ai... Tout ça est normal. On ne peut pas, à moins de faire des... Comme on entraîne d'ailleurs les médecins, les pompiers, on ne peut pas s'entraîner à avoir une réaction positive dans une situation comme ça. Donc, on a une réaction. Et après, cette réaction, elle va évoluer en fonction de plein de paramètres extérieurs et internes. Voilà, que les psys peuvent un petit peu plus comprendre et aider. Mais les gens ont des, vont être très étonnés de les réactions. J'ai entendu un monsieur me dire, j'ai vu un regard et ce regard, je le vois en boucle. Où j'ai senti quelque chose de mou à côté de moi et j'ai cette sensation en permanence. Hein. Donc il y a des doubles interrogations. Comment moi j'ai réagi? Et puis qu'est-ce que ça veut dire? Après on en parlera plus tard, mais quel sens donner à cette situation?
Marianne Kendia ou Gérard Lopez?
Non, le malheur, je vais laisser la parole à Marianne tout de suite, mais le malheur c'est que comme on revit les choses comme si elles étaient actuelles, on les évite. Et le malheur c'est que souvent on dit aux gens... Vous devriez aller voir Marianne Kendia parce que vous pourrez parler avec elle de tout ça. Alors les gens, ce qu'ils veulent justement, c'est pas en parler. Parce qu'ils pensent qu'ils vont oublier, que quand ils parlent des choses, ça appuie sur le bouton magnétoscope et ils revivent. Alors ne dites surtout pas aux victimes, allez voir Marianne Kendia, ça vous fera du bien d'en parler. Dites, allez voir Marianne Kendia, elle va régler votre magnétoscope et votre télécommande.
Moi,
ce que je trouve important surtout de se rappeler, c'est que les réactions immédiates à une situation de choc, elles ont une vraie valeur adaptative. C'est-à-dire que, ce qu'expliquait Gérard tout à l'heure, on a un petit endroit dans le cerveau où on va gérer la peur, qui est à la base du cerveau. C'est vraiment le cerveau reptilien. Et que dans une situation de menace extrême, on a besoin de réagir extrêmement rapidement. Alors le champ visuel va se réduire pour vraiment cibler les endroits qui nous permettent de prendre des informations pour se défendre, on va se mettre en alerte, le corps va se tendre pour courir plus vite et fuir le danger, etc. Donc ça, c'est une réaction qui a vraiment une valeur, une portée adaptative immédiate. Le problème, c'est que souvent, cette réaction-là, elle va perdurer quelques jours. Alors, il y a des situations, quand on est dans une situation de guerre, par exemple, où il y a des bombardements réguliers, si vous êtes sur le qui-vive en permanence, vous allez réagir beaucoup plus vite quand il y a un bombardement. Vous allez être le premier à vous mettre sous la table pour vous planquer. Donc c'est vraiment à ça que ça sert. Quand on est retiré, quand on est revenu en sécurité, ces réactions-là vont se prolonger quelques temps. Et c'est là-dessus, en fait, que nous, on va essayer d'agir, parce que quand ça n'a plus cette valeur adaptative, ça peut devenir très embarrassant, ça empêche de faire beaucoup de choses, ça empêche de dormir correctement. Et puis surtout, c'est épuisant, parce qu'on dépense une énergie folle à être en alerte en permanence. Donc les gens s'épuisent à la longue, et c'est à ça que nous, on va servir, c'est essayer de rétablir un fonctionnement normal entre le cerveau de la peur et le cerveau plus élaboré qui peut analyser le contexte.
Alors apparemment, il y a un impact sur la mémoire aussi, c'est-à-dire qu'il y a une activation, une suractivation d'une partie de notre mémoire, et au contraire, une amnésie partielle. comment cela fonctionne, Aurore Sabourin?
Alors, je ne suis pas la grande spécialiste pour vous expliquer très neurologiquement comment ça fonctionne, mais à travers ce que vient de dire Marianne, on voit bien que le cerveau se met en position de vigilance. La première chose, et il faut l'expliquer aux gens parce qu'ils ont eu des comportements qui leur semblent un petit peu bizarres, on veut survivre. On n'a même pas besoin de se poser la question. On va trouver le comportement adapté à la survie dans l'instant. Ce comportement adapté à la survie dans l'instant ne va peut-être pas l'être dans 15 jours, quand on rentre chez soi. Il va poser problème. Mais dans l'instant. Et notre esprit se concentre alors sur les éléments. Je recevais un jeune homme qui est photographe ou caméraman, je ne sais pas. Et il a focalisé, lui, sur des images. Il a observé le territoire. J'ai vu une autre dame qui habite en Israël, elle a focalisé sur d'autres éléments. Chacun focalise en fonction de ses habitudes. Et ça va rester dans la mémoire. Et donc, notre cerveau va diminuer notre champ de vision et donc va pas tellement observer les autres ou va l'entendre en arrière-fond, comme par exemple des bruits, mais qui ne vont pas être complètement connectés avec l'histoire du moment. Ce qui fait qu'après, dans le temps, les bruits qui ont été enregistrés dans la mémoire, mais pas connectés à la situation de l'attentat, enfin du moment, va poser des problèmes. Parce que quand ils entendront, par exemple...
Une porte qui claque...
Ou même le téléphone portable. Hein, le policier qui racontait que dans ce silence de mort, il entendait les bruits du portable. Ben, ces bruits-là vont avoir vont provoquer une réaction de panique sans que la personne fasse vraiment le lien avec ce qui s'est passé. Donc on va avoir plein de phénomènes comme ça. Que les gens, petit à petit, ça va les inquiéter. Ils vont cacher, ils ne vont pas dire, ils ne vont pas comprendre. Et ne pas oublier, hein, il faut du temps pour résoudre ça. C'est dans les 2, 3, 4 mois qu'on va s'inquiéter pour eux, pas avant.
Donc le symptôme est quand même très fort en matière de souvenirs intrusifs qui surviennent comme ça. Vous l'avez très bien donné des exemples de ces types de souvenirs qui d'ailleurs sont, pour une part, pas complètement liés à la situation, ou deviennent indépendants de cette situation. Et c'est d'ailleurs ça qui les rend très intrusifs, Gérard Fortin.
Oui, ça appuie sur le bouton du magnétoscope, ça relance les scènes.
Hein. C'est le chien de Pavlov, hein, oui. Basiquement, c'est ça. C'est vous associez un son, par exemple, à une émotion qui est la peur, un son fort et soudain, qui est celui de la mitraillette au moment de l'événement. Et puis, bah, finalement, tous les sons qui s'y apparentent, une porte qui claque, quelqu'un qui claque du talon, quelque chose comme ça, et paf, réflexe, comme le chien de Pavlov, ça va déclencher l'émotion de peur. Ça devient automatique.
Est-ce que c'est ça que vous appelez la
panique? Oui. Il y a eu des paniques parce qu'il y a une lampe halogène qui a pété, il y a un type qui a lancé un pétard, il y a eu des mouvements de panique parce qu'évidemment tout le monde se remettait à...
Oui, la mémoire est associative, donc effectivement on va faire des associations. Et toutes ces associations qui sont neutres d'habitude, on n'entend pas claquer la sirène, vont devenir des bruits qui vont provoquer le souvenir du traumatisme.
Alors apparemment, il y a simultanément une sorte d'amnésie de certains éléments de la situation. Gérard Lopez, oui, je tiens à l'amnésie.
Alors, ce qui se passe, je vais essayer de l'expliquer très simplement. Nous avons, comme a dit Marianne, à la base du cerveau, des amygdales. Pas les amygdales, hein, avec les angines, hein, des amygdales de la base du cerveau. C'est le centre d'alerte. C'est les oies du Capitole. Quand on est confronté à quelque chose de difficile, bah écoutez, on se met en état d'alerte et les amygdales les font sécréter la fameuse adrénaline, le cortisol. L'adrénaline, bah, c'est pour respirer plus vite, pour être plus fort, et le cortisol, c'est pour augmenter le glucose qui est le carburant du cerveau. Mais quand il y a trop de cortisol, quand il y a trop d'adrénaline, on ne peut plus réfléchir. Et alors, c'est ce qui se passe, c'est que quand on est confronté à un événement qui appuie sur le bouton du magnétoscope, eh bien, on ne peut plus réfléchir, on a des comportements automatiques, on a des amnésies, on ne sait plus où on est, on revit la situation de départ. Et c'est automatique, comme a dit Marianne.
Toutes les fonctions plus élaborées du cerveau, en fait, vont avoir du mal à fonctionner. Donc, il y a des études, donc clairement, sur la mémoire, ça a été montré. Du coup, il y a des moments de l'événement qu'on va mal mémoriser, ou qu'on va mémoriser de façon très particulière. C'est ça qui fait que ça va revenir de façon intrusive. Et il y a des études de neuroimagerie fonctionnelle qui sont très intéressantes et qui ont montré que les personnes traumatisées, quand elles racontent l'événement traumatique, ont une activation cérébrale très forte au niveau des aires visuelles. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'images. En revanche, au niveau des aires du langage, c'est complètement sous-activé. Donc raconter avec des mots ce qu'on a vécu, c'est très compliqué. Et c'est aussi là que le travail du psy va être intéressant, parce qu'on va permettre de refaire du lien entre ce qui est vu, ce qui est ressenti dans le corps, et ce que la personne est capable de dire. Et à partir du moment où elle arrive à le dire, ça va permettre de remettre ça dans une mémoire plus normale, et du coup de le ranger dans la bibliothèque comme un livre, mais qu'on va choisir de sortir soi-même, et pas un livre qui nous tombe dessus à la moindre opportunité.
Alors ça renvoie, en dehors du problème sur lequel on réfléchit aujourd'hui, à la question du témoignage aussi de ces personnes qui souvent sont sollicitées par les autorités, par la police, etc., pour rendre compte de l'événement qu'elles ont vécu. Gérard Lopez.
Imaginez une victime d'un viol. 100 000 viols en France par an. Elle n'a pas pu se souvenir des choses extrêmement bien. Et si les policiers ne sont pas formés, Dieu merci, on les forme, ils vont s'imaginer que cette personne ment ou des choses comme ça, parce que elle n'a pas vu parfois des choses évidentes. Moi, j'ai vu à la cour d'assises un avocat qui se frottait les mains parce qu'il avait la preuve qu'il n'y avait pas une fellation, parce que le monsieur avait, une chose assez rare, un tatouage sur la verge. Comme si, en situation de viol, on pouvait...
Ça a même été largement montré que les c'est même plutôt un signe de réalité du traumatisme quand il y a des défaillances dans la mémoire. C'est contre-intuitif, on a tendance à penser si la personne a vécu ça de façon très très intense, elle va se le rappeler de façon très très précise. C'est le contraire. C'est-à-dire, plus vous êtes traumatisé, plus votre mémoire va être défaillante et plus va y avoir des incohérences, parce que les gens essayent aussi de recoller les morceaux. Donc le cerveau comble les vides et peut raconter, déformer le souvenir.
Disons que la violence de ce traumatisme, la réponse, elle est émotionnelle. Et l'émotion, elle déconnecte le cerveau, on va dire, intelligent, intellectuel et verbal, du cerveau émotionnel. Donc, pendant tout l'événement, on est dans l'émotion, avec des informations que le cerveau va enregistrer quelque part, mais c'est pas bien. Il sait pas bien où. Et surtout, il n'y a pas l'intermédiaire qui est le langage pour, comme dit Marianne, remettre les choses en mots et donner du sens. Donc, dans l'instant, on a des informations multiples et de l'émotion qui fait que la compréhension ne se fait pas. Après, ça donne cette impression amnésique qui, en fait, les gens n'ont plus la chronologie. Ils ont des trucs ça. Il y a plein d'événements dispersés un peu dans le cerveau quelque part et il va falloir petit à petit les rassembler. Ce que les gens tout seuls n'arrivent pas toujours à faire, et c'est le travail de la psychothérapie de refaire la chronologie, de remettre en mots et de façon cohérente le récit de ce qui s'est passé.
France Culture, Science Publique. Michel Albert-Gonti.
Nous débattons aujourd'hui la question « Comment adoucir le traumatisme des victimes du 13 novembre ?» avec nos invités, Marianne Kedia, qui est spécialiste du trauma, Aurore Saboureau-Séguin, psychiatre et directrice du Centre de psychotrauma de l'Institut de victimologie, et Gérard Lopez, psychiatre initiateur des cellules d'urgence médico-psychologiques, les CUMP. Alors maintenant qu'on comprend un peu mieux ce qui se passe dans le cerveau des personnes soumises à ce genre d'épreuves, quelle est la prise en charge? Comment la première prise en charge, déjà, il semblerait que ce soit ces CUMP qui sont en première ligne. Comment fonctionne-t-elle? Donc, vous avez participé à les créer, Gérard Lopez, hein, vous pouvez nous expliquer peut-être la mécanique de ces...
Ça ressort tout à fait de ce qu'on vient de dire. Au début, plus les gens sont dissociés ou plus ils ont des relations...
Alors dissocier, c'est ce que l'on a décrit.
C'est-à-dire abstrait de la réalité. Vous voyez, ils sont comme le lapin, ils ont des trous de mémoire, ils ont des comportements automatiques, etc. Il faut éviter que ça perdure. Donc c'est pour ça que c'est important d'agir au début, puisque la recherche nous montre que plus on est dissocié ou plus on a d'émotions, plus on va avoir des troubles de stress post-traumatique. Ça, c'est au début. Dans un second temps, les CUMP, normalement, organisent des réunions collectives. Et les réunions collectives ont ce but de faire que, comme tout le monde a des trous de mémoire, les gens peuvent, en racontant les uns et les autres, recoller un petit peu
les trous, puzzle. Les vides.
Hein, moi, j'ai vu, par exemple, c'est une banque, peu importe, parce que c'est l'idée qui me vient, une dame qui dit, quand il a dit qu'il en avait déjà tué 4, qu'il n'en était pas un cinquième près, et le type qui avait été menacé, caissier, il disait, mais il n'a jamais dit ça. Tout le monde, monsieur, il a dit ça. Ah bon ? Vous voyez, on reconstruit le puzzle, puisque justement, il y a des troubles de mémoire.
Alors, Marianne Kedia, on parle de débriefing dans cette phase-là. Mm-hmm. En quoi cela consiste concrètement ?
Alors, le débriefing, ce n'est pas dans les premières heures. C'est en ça qu'il faut bien faire attention à ce qu'on fait dans les cellules d'urgence médico-psychologiques. Les CUMP sont rattachés au SAMU. Donc, il y a vraiment cette idée de pouvoir immédiatement repérer des gens qui seraient en situation de danger personnel parce que très désorganisés, très, très en difficulté à se remettre en contact avec la réalité. En pratique, c'est peu de gens. Hein, dans les heures qui suivent, il n'y a pas tant de personnes que ça qui sont concernées. Donc, dans ces cas-là, on va vraiment faire un triage. Hein, enfin, les gens vont passer au triage, au tri. On va repérer ceux qui sont dans cet état-là. Et puis, ceux qui ne le sont pas, c'est vraiment des besoins de base. Prendre contact avec ses proches, être mis en sécurité, sécurisé, etc. Dans les jours qui suivent, plutôt après 2 ou 3 jours, quand les personnes ont pu se reconnecter tout doucement à leur fonctionnement habituel et du coup vont pouvoir mobiliser des ressources personnelles aussi, on peut organiser ce qu'on appelle des débriefings. Donc ça, c'est une technique psychologique particulière qui n'a pas de visée thérapeutique, et ça c'est important. L'idée, c'est pas d'empêcher les symptômes d'arriver, mais c'est vraiment de permettre aux personnes de comprendre pourquoi elles ont ce type de réaction. C'est-à-dire ce qu'on vient d'expliquer, on fait ce qu'on appelle de la psychoéducation. On dit aux personnes, on sait que les gens qui sont dans cette situation ont tendance à être très détachés d'elles-mêmes, peuvent avoir des réactions qui sont bizarres, qui paraissent pas adaptées, etc. Donc on va parler avec eux de ce qu'ils ont pu ressentir et on va essayer, entre guillemets, de normaliser leur réaction pour leur dire que justement, il n'y a pas forcément quelque chose de pathologique tout de suite. C'est une réaction, un choc. Quand on vous tape dessus physiquement, vous allez avoir une blessure. Et cette blessure, on va essayer d'en prendre soin. On vous donne les armes pour ça. Donc ça se fait avec le temps, ça peut se faire en groupe de moins en moins, parce que les gens ont des réactions très différentes, donc ça peut être beaucoup plus adapté de le faire en individuel aussi, et simplement ensuite on va donner un certain nombre de recommandations sur l'hygiène de vie, prendre soin de soi dans les jours qui viennent, éviter de consommer beaucoup d'alcool par exemple, parce que ça altère le fonctionnement normal du cerveau, renouer avec ses proches, prendre du temps pour se reposer, etc. Mais c'est vraiment de l'ordre de l'hygiène de vie, c'est pas de la psychothérapie et ça n'a pas de vertu thérapeutique.
Alors justement, Aurore Saboureau-Séguin, il semble qu'il y ait débat sur l'impact réel de ces débriefings et apparemment tout le monde n'est pas d'accord sur ce point-là.
Oui, enfin, je moi, j'adhère complètement à ce que dit Marianne. Il n'y a pas de visée thérapeutique dans un débriefing. Il y a juste être humain, être présent. Et c'est la vertu, c'est la psychoéducation. On n'a pas assez, on connaît pas très bien ces choses. C'est pour ça que vous faites cette émission. C'est pour donner de l'information. Parce que puisque ces gens doivent comprendre ce qui s'est passé, ils doivent digérer, ils doivent donner un sens, ils doivent reconstruire leur réalité et le sens de leur vie dans cette vie, il faut leur donner quelques éléments pour les rassurer, dans le sens des éléments déjà de la sensation physique qu'ils vont avoir, parce que les gens, des sensations qu'ils ont eues à un moment, on n'a pas parlé, mais dans un moment comme ça, on a eu peur, mais on a honte, on se sent coupable, on se demande mais pourquoi j'ai pas pu faire. Enfin là, on entend des récits, je suis partie comme un lâche, je me
pourquoi
suis enfuie.
Pourquoi j'ai survécu, pas les autres.
Voilà, hein, pourquoi j'ai survécu, ça apparemment pourquoi revient moi, très souvent.
J'en ai un qui m'a dit, pourquoi j'ai pas reçu les balles, c'est l'autre, il a reçu les balles pour moi. Là, on rectifie tout de suite. Non, il n'a pas reçu des balles pour vous, il a reçu les balles. Et vous, vous ne les avez pas reçues. Et donc, c'est tout ça que nous, à distance et en dehors de cette situation, on va pouvoir apporter, en fait, des éléments de réflexion, modifier un petit peu leur réflexion pour que ça reprenne. Ça n'a pas de sens, une fusillade comme ça, une barbarie, ça n'a pas de sens. Mais leur vie a du sens. Et donc, il faut pouvoir les aider à reprendre ce chemin-là. Et donc, les débriefings peuvent avoir une utilité dans ce sens-là. Comme disait Marianne, enfin, nous, on en fait deux. Des groupes professionnels, par exemple, on nous demande un groupe, une unité de musiciens qui a un conservatoire, qui est confronté à ça, voudrait qu'on vienne pour s'occuper du groupe. Une unité de soignants qui vont recevoir voudrait qu'on les aide à comprendre comment faire dans ce situation-là.
Parce que le groupe était déjà constitué.
Parce que c'est un groupe constitué. Une école peut avoir du sens, mais pas rejoindre les gens dans la rue et on... Voilà, non, ça n'a pas de sens.
Est-ce qu'un des apports particuliers de cette phase-là, c'est pas justement de faire comprendre aux personnes qui sont victimes de ces séquelles que comment ça fonctionne et justement pour les informer par rapport à quelque chose de totalement nouveau pour elles. C'est la première fois qu'elles sont, pour la plupart, plongées dans cet état. Et donc, c'est vrai que la première phase, c'est quand même qu'elles prennent conscience qu'il s'est passé quelque chose et qu'elles acceptent peut-être de reconnaître qu'il y a, en dehors des aspects physiques, aussi des séquelles psychologiques, Gérard Lopez.
Alors, il y a aussi la dimension du débriefing très important et fondamental, c'est qu'on reconnaît que les gens ont subi des choses épouvantables et, comme dit Marianne, que c'est bien normal qu'ils aient des troubles. Et deuxièmement, ce qu'on oublie toujours, c'est que comme c'est de la psychoéducation, on explique aux gens qu'il y a des associations qui peuvent être indemnisées et on les oriente dans le réseau. Très important d'orienter les gens dans le réseau.
Marianne Kélia.
Mais je trouve aussi, je pense qu'il y a eu beaucoup de critiques sur les interventions qu'on appelle post-immédiates, donc tout de suite après, qui sont étayées par des données de la littérature. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, on n'a pas une diminution des symptômes chez les gens qui ont été débriefés, voire dans certains cas, il y a eu plus de symptômes chez ceux qui ont été débriefés que chez les autres. Donc ça, c'est important de le savoir. Si on est dans l'idée qu'il n'y a pas une visée thérapeutique et que c'est bien pratiqué, on apporte d'autres choses. Mais je pense que une des critiques vraiment sur lesquelles on doit être vigilant vis-à-vis des cellules d'urgence, c'est dans quelle mesure elle se substitue pas non plus à un soutien collectif et communautaire, et que finalement c'est ça qu'il faut favoriser. Avant les interventions professionnelles, etc., et dans certains pays ça marche beaucoup mieux qu'en France, c'est-à-dire permettre aux gens de se regrouper, pas forcément par l'intermédiaire d'un psy, mais par l'intermédiaire d'une association, d'un groupe communautaire. Aux États-Unis, souvent ça va être des groupes ethniques, etc., et de faire ensemble des choses qui sont pas forcément thérapeutiques non plus, qui sont pas forcément de parler de l'événement, mais de se regrouper, parce qu'on sait que le soutien social, c'est ça qui permet le mieux de dépasser un événement traumatisant.
Je pense que dans cet ordre-là, les gens qui sont allés porter des fleurs et des bougies, ça paraît comme ça ridicule à l'extérieur, mais c'est un moment de se retrouver en communauté, c'est de pouvoir partager le chagrin, partager la réaction, et ça fait partie de la vie sociale, de partager.
Alors, il y a quand même plusieurs catégories aussi de gens touchés. Il y a ceux qui sont, par exemple, parmi les blessés, plus ou moins graves de ces attentats. Il y a ceux qui n'ont pas été blessés, mais qui étaient physiquement présents. Et il y a ceux qui sont les connaissances. Enfin, il y a plusieurs cercles, quoi. Hein, les connaissances de ces, ou les proches de ces personnes, soit blessées, soit présentes. Et puis, il y a aussi les spectateurs. Donc, en fait, beaucoup de gens concernés à des degrés différents. Et comment le risque de traumatisme est-il distinct?
Vous oubliez quelque chose d'évident.
Oui,
c'est les gens qui font un deuil, un réel deuil, qu'on appelle le deuil traumatique, qui est un deuil un peu spécial, qui est assez difficile à soigner et qu'il faut prendre en compte. Il y a beaucoup d'endeuillés en France actuellement.
Bien sûr, oui. Mais je parlais des proches. Je
alors
pense
effectivement,
que
la proximité des...
Marianne Kédia.
La proximité avec... à quel point on est concerné de près par l'événement traumatique va augmenter le risque de développer un stress post-traumatique et en tout cas d'avoir des réactions immédiates assez fortes. Plus on est loin des victimes, moins le risque est important. Donc ça, c'est très important. Dans les facteurs de risque aussi, il y a le fait, Gérard le disait tout à l'heure, d'avoir déjà vécu un événement traumatisant qui va être ravivé par celui-là. Et dans ces cas-là, des personnes qui ne sont pas concernées, qui ne connaissent personne de proche, peuvent aussi se sentir beaucoup plus anxieuses à la simple évocation de la menace. Et parce qu'en plus, il y a tout plein d'événements politiques, des décisions, des annonces aussi sur des armes chimiques, etc. Donc une menace très diffuse, très impalpable, complètement incontrôlable. Et ça génère beaucoup d'anxiété. Donc il y a plusieurs facteurs qui...
Oui, puis il y a plusieurs dans le temps aussi, il y a des choses différentes.
Aurore Savoureux, c'est
bien. Des gens là, en ce moment, on entend, disent « moi je vais bien ». D'accord, ils sont même plutôt euphoriques. J'ai survécu, je suis vivant, je suis bien, j'en profite. Ça ne veut pas dire que, je ne vais pas donner de le faire peur aux gens, mais ça ne veut pas dire qu'on ne développera pas quelque chose. Je me souviens d'une patiente que j'ai vue 15 ans après. Elle était dans l'attentat de la rue des Rosiers. Elle est rentrée chez elle, tout va bien. 15 ans plus tard, elle voit un suicide par sa fenêtre et ça a développé tous les symptômes de stress post-traumatique de l'ancien traumatisme. Donc, il y a des effets cumulatifs. Vous parliez de la mémoire. Dans la mémoire, il reste des choses qui peuvent se réveiller à des moments différents. Bon, il y a vraiment plein de variétés, si je puis dire, façons d'être mal après.
La perspective, c'est ce risque dont on a parlé plusieurs fois, qui se traduit par le sigle ESPT, et qui, donc, est quelque chose, lui, à plus long terme. Alors, comment l'expliquer? Quel est ce syndrome et comment se traduit-il, Gérard Lopez?
Il se traduit, on l'a dit, c'est un peu les mêmes symptômes que dans la phase aiguë, sauf qu'ils surviennent un mois plus tard, et on dit qu'au bout d'un mois, il y a un trouble de stress post-traumatique. Ce sont des intrusions d'images, de pensées, d'odeurs, de sensations, des cauchemars où on revit les choses, choses qu'on essaye d'éviter le plus possible, donc on essaye d'éviter tout ce qui pourrait rappeler ou symboliser l'événement, et puis des réactions d'alerte. Il faut ces trois choses-là pour avoir un trouble de stress.
C'est-à-dire une réaction d'alerte, c'est...
On est toujours sur le qui-vive, dès qu'il y a un bruit, on sursaute, des choses comme ça. Voilà, c'est ça, c'est très très facile à diagnostiquer, c'est relativement facile à prendre en charge quand on est habitué. C'est pas du tout la même chose que les gens, par exemple, qui auraient subi des tas de traumatismes et qui ont des troubles bien plus compliqués. Et, par exemple, Marianne Kédia, ici présente, a essayé de faire une thèse, elle en a fait une très bonne d'ailleurs, sur le trouble de stress post-traumatique.
Ça
au centre,
bien,
où on voit 1000 personnes par an. Elle a eu du mal à trouver 17 états de stress post-traumatique.
30.
Marianne Kédia va nous l'expliquer elle-même.
Mais c'est vrai que les gens qui... L'état de stress post-traumatique, c'est vraiment l'idée qu'on a été confronté à un événement ponctuel et circonscrit dans le temps. En pratique, ce qu'on voit, ou ce que je voyais à l'époque où j'y étais au centre du psychotrauma, c'est que la plupart des gens qui consultent en temps normal sont des gens qui ont été soumis à des événements répétés. La maltraitance infantile, les violences conjugales, l'inceste... la torture aussi pour les cas des réfugiés. Donc il faut vraiment aussi que les auditeurs puissent comprendre que l'état de stress post-traumatique, c'est pénible, enfin être en état de choc, parce que pour l'instant, pour dire qu'on a un état de stress post-traumatique, il faut que les réactions perdurent au-delà d'un mois et qu'elles soient toujours très invalidantes. Mais quand on est dans cet état-là, c'est très pénible, c'est vraiment, ça perturbe le sommeil, c'est extrêmement fatigant, mais ça se soigne bien. Voilà. C'est pas une fatalité non plus, tout le monde va pas le développer à nouveau. Quand on souffre de ces symptômes-là, on peut vraiment se faire aider avec des techniques particulières qui sont bien maîtrisées par les spécialistes et qui aident beaucoup.
Il y a un symptôme dont on n'a pas parlé. Oui, il y a un symptôme dont on n'a pas parlé qui va gêner, c'est les troubles du caractère. C'est-à-dire que les gens supportent plus rien, sont énervants et l'entourage va dire il a changé, je le supporte plus, et on voit beaucoup de difficultés relationnelles à la suite de ça. Ça peut être quelquefois même le symptôme qui émerge.
C'est vrai.
Et les autres sont en sourdine.
Donc passé un mois, donc on peut faire ce diagnostic pour savoir si la personne donc est victime de ce syndrome, et quel est dans ce cas-là le traitement, la prise en charge possible.
Alors pour ma part, le traitement dépend de la compréhension. C'est-à-dire que comme on voit que finalement les gens ont eu peur à juste titre et qu'ils ne veulent plus jamais avoir peur. C'est la peur, l'angoisse, c'est des émotions qu'on cherche à fuir tout le temps.
Ils ont peur de la peur.
Ouais. Ils ont peur et ça devient la peur de la peur. Donc on veut éviter les situations où on va retrouver cette peur. Alors soit cette peur parce que tout d'un coup, paf, le souvenir s'est réveillé, soit parce que c'est des images intrusives. Donc ils vont avoir des comportements qu'on appelle des comportements d'évitement. Certains vont dire phobiques, mais ce sont des comportements d'évitement. C'est éviter de se retrouver confronté à la peur. Donc ils vont, soit ça va se traduire par éviter de la vie sociale, éviter les lieux de groupe, soit ça va être éviter de penser, éviter de mal dormir, c'est-à-dire boire un petit coup le soir pour s'endormir très vite, prendre un joint parce que du coup on n'a pas de sensations physiques et on peut s'endormir. Il y a plein de comportements comme ça. Petit à petit, ça va isoler la personne. Donc, une des phases de traitement, c'est la psychoéducation, de l'expliquer. Deuxièmement, c'est de repérer tous les comportements qui sont liés au trauma et qui vont poser problème dans la vie relationnelle et la vie personnelle. Et puis de travailler, ce qu'on fait par exemple en thérapie comportementale, c'est exposer non pas à la peur, non pas au traumatisme, mais d'exposer aux situations qui ne sont pas dangereuses et qui sont des situations que les gens évitent. Se promener, là en ce moment, j'ai tas de gens qui me disent « à 18h, je ne sors pas, parce que plus il y a de monde, plus c'est dangereux ». Bon, je ne suis pas sûre, mais bon, petit à petit, dans quelques temps, on va travailler cette situation. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller progressivement dans des lieux où il y a beaucoup de monde, plutôt que de choisir 9h du matin où on est sûr de retrouver personne.
Alors justement, les thérapies cognitivo-comportementales que vous avez mentionnées, est-ce que c'est une des voies, est-ce qu'il y en a d'autres pour prendre en charge et aider les personnes à dépasser et à supprimer ce syndrome, Gérard Lopez?
Je crois que le plus important au début, bien sûr, les thérapies cognitivo-comportementales, le MDR,
MDR?
Le MDR, c'était une thérapie par les yeux, tout le monde connaît ça depuis Servan-Schreiber, vous savez.
Thérapie par les yeux, c'est un peu réducteur. Oui, enfin. C'est l'idée qu'on va justement réassocier, en gros, le cerveau de la peur et le cerveau plus raisonnable. Et ça se fait notamment par le fait de stimuler bilatéralement, on dit, le cerveau. Donc en faisant des mouvements des yeux de gauche à droite ou en tapotant sur les cuisses, par exemple, pour favoriser ça.
Dans un cadre qui est
de la cuisine.
Dans un cadre qui inclut le cognitif et le comportemental aussi.
Mais le plus important au début, c'est d'apprendre aux gens à se relaxer. On a fait des expériences tout à fait extraordinaires, mais quand vous prenez un traumatisé, dans les heures qui suivent un trauma et que vous faites des exercices, par exemple, de cohérence cardiaque, c'est-à-dire de mettre la respiration et le cœur en cohérence, et il y en a des petits appareils qui le montrent. Il y a une étudiante qui nous a fait une superbe étude au DU, au diplôme universitaire, là. Eh bien, ça diminue. Donc, on ne peut pas faire une exposition, comme vous dit Aurore, ou faire de l'MDR, comme ferait peut-être Marianne. Je ne sais pas, tu as été formée? Non, tu n'as pas été formée. Moi, j'étais vice-président de la société MDR France, vous imaginez, je connais. Tout ceci, c'est... Au début, il faut reconnecter le cerveau émotionnel et le cerveau qui réfléchit. Donc de la relaxation.
Et ça fonctionne.
Mais vous savez ce qu'on fait en ce moment ici? On fait un débriefing psycho-éducationnel pour nos auditeurs.
La relaxation, c'est très bien. Marianne.
La relaxation, c'est vrai que ça marche très bien. Et c'est surtout une technique qui n'est pas du tout intrusive, qui n'oblige pas à se remémorer l'événement. Donc, notamment dans les premiers jours, ça permet à la personne d'avoir un outil qu'elle va pouvoir utiliser toute seule. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans la relaxation. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir le psy à côté pour faire l'exercice. Et simplement, effectivement, on va réguler la respiration. Moi, j'ai débriefé quelqu'un cette semaine suite aux attentats. C'est quelqu'un qui avait eu un problème de bégaiement dans son enfance, qui a été très bien rééduqué au niveau orthophonique, et suite aux événements, parce qu'il a été exposé directement, le bégaiement est revenu de façon très impressionnante, enfin beaucoup plus forte en tout cas, alors qu'avant c'était invisible. On a fait un exercice de relaxation. Dans les minutes qui ont suivi l'exercice, c'était assez impressionnant de voir à quel point la parole déjà s'était régulée. Donc c'est pas miraculeux non plus, c'est-à-dire que ça va revenir, ça va prendre un petit peu de temps tant que l'anxiété sera pas complètement régulée, mais en tout cas immédiatement, il peut y avoir une sensation de détente qui est très profitable.
Ça donne une sensation de contrôle à la personne qui, justement, a complètement perdu le contrôle. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Albert-Gonty.
Comment adoucir le traumatisme des victimes du 13 novembre? C'est notre débat d'aujourd'hui avec nos invités. Marianne Kiedia, spécialiste du trauma. Aurore Saboureau-Séguin, psychiatre et directrice du centre de psychotrauma de l'Institut de victimologie. Et Gérard Lopez, psychiatre et initiateur des cellules d'urgence médico-psychologiques. La question aussi de qui est concerné peut se poser pour ce qui... des gens très éloignés, des simples spectateurs de cette période dramatique de vendredi 13 dans la nuit, où des gens ont suivi pendant 2, 3, 4 heures parfois les images diffusées en direct et en boucle par les télévisions de ce drame. Est-ce que là aussi, certaines personnes peuvent être affectées par ce spectacle et par la force de ces images, Gérard Lopez?
Oui, bien entendu. Et surtout, je trouve incroyable, et il faudrait le dire, le répéter, il faut pas que les enfants voient des images comme ça en boucle. C'est monstrueux. Il faudrait que les parents le sachent. Il faut pas...
Il y a eu beaucoup d'études sur l'impact de la télévision sur la population générale après le 11 septembre, où là, déjà, les images tournaient en boucle avec les chaînes d'information en continu. C'est assez sidérant, j'emploie pas ce terme par hasard, mais de voir à quel point, en fait, je trouve les chaînes d'information en continu fonctionnent comme un cerveau traumatisé. C'est-à-dire qu'elles passent les images en boucle et elles mettent les spectateurs dans une position qui est complètement passive et qui, en ça, est un vrai miroir de ce que vit une victime directe d'un attentat. Après le 11 septembre, du coup, ces études ont été menées et ont montré que des personnes qui n'avaient pas été exposées directement étaient plus anxieuses que des gens qui avaient subi directement les attentats. Et notamment, effectivement, chez les enfants de moins de 6 ans, on a pu montrer que quand ils voient les images encore et encore, ils ont l'impression que la violence se reproduit encore et encore. Ils n'intègrent pas que ce sont les mêmes images
du même jour
qu'on repasse, et du coup, dans une temporalité différente. Donc, c'est la menace persiste pour eux. Et ça, il faut faire très attention, parce que c'est vrai qu'on a tendance à laisser la télé allumée. Les enfants passent devant ou sont dans un coin en train de jouer. Ils n'ont pas tellement l'air d'écouter, etc. Alors qu'en fait, ils sont très attentifs. Ils sont aussi très réceptifs aux états émotionnels de leurs proches. Donc, ils absorbent tout ça comme des petites éponges émotionnelles.
Ça a le même impact sur les adultes. Hein. C'est pas que sur les enfants. Ah, c'est encore plus perturbant.
On peut être traumatisé, conduire à ce syndrome dont on parle depuis le début, en regardant la télévision.
Regarder la télé n'est pas un événement traumatique. Donc, il y a peu probable que ça provoque un état de stress post-traumatique. Par contre, ça imbibe et ça va augmenter l'anxiété, ça va renforcer les schémas des personnes. On est tout le temps en danger, on est en guerre, etc. Je me souviens, pour une petite anecdote, ma première fille, j'ai été grand-mère pour la première fois avec ma première fille, j'étais à la clinique et c'est le jour du 11 septembre 2001. Et pendant que j'étais à la clinique, on était dans la salle d'attente, on allumait la télévision et paf, on est tombé devant ces tours qui étaient, on était là, c'était la même heure, hein, donc on les a regardées. La télé restait en boucle, un peu sidérée, on les a regardées en boucle et en même temps, on était inquiet pour ma fille, bon, etc. Je me suis aperçue l'année d'après, quand à nouveau ils ont fait l'anniversaire de cette... ils ont mis les images et je regardais les actualités et en bas, il y avait une image des tours. Et tout d'un coup, je me suis sentie mal. J'ai eu la nausée, j'étais pas bien. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est cette image qui a rappelé cet inconfort que j'ai eu dans mon cerveau, vous voyez. Donc, on a une imprégnation neurologique de ces images et il faut peut-être pas entrer dans ce type de comportement.
Marianne Kédia.
Je pense notamment, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Aurore, et notamment les personnes qui sont déjà anxieuses ou qui ont déjà fait des dépressions, etc., qui sont plus sensibles. Ça a été aussi très bien montré dans la littérature scientifique. Si on a tendance à être un petit peu anxieux, en fait, on va augmenter son anxiété par une information qui, effectivement, fait peur, et il y a de bonnes raisons d'avoir peur toujours, mais sur un tempérament anxieux, ça va être interprété différemment, ça va venir alimenter des pensées qu'on avait déjà de l'environnement est dangereux, je peux pas prendre les transports en commun, je peux pas aller dans des endroits où il y a du monde. Donc vraiment pour ces personnes-là, ce qu'on peut recommander, c'est faire très attention avec la télévision. Moi je dirais, si vous voulez suivre l'actualité, privilégiez soit les journaux écrits, soit la radio, parce que là on passe par l'intermédiaire du langage, donc on est obligé d'élaborer un petit peu, ce qu'on fait pas quand on regarde des images. Et quand on regarde, si on veut suivre les informations, choisir des temps dédiés à ça. pas le faire toute la journée, désactiver les alertes d'infos sur son portable.
Est-ce que les réseaux sociaux jouent un rôle?
Ça, moi, j'en suis persuadée, parce que ça, il y a vraiment une alimentation extrêmement rapide.
Une fascination, en plus. Et une espèce de complaisance dedans. Et bon, voilà, il faut peut-être aussi accepter de dire stop et fermer la porte.
Il y a un petit côté hypnotique, peut-être.
Il y a un côté complètement hypnotique, et je suis assez sidérée de voir à quel point, moi, je vois sur ma propre page de réseau social, à quel point c'est certaines personnes en particulier qui alimentent en permanence, qui toutes les 5 minutes mettent une nouvelle actualité, là où en plus, sur le fond, il n'y a pas tellement d'actualité. Et ça, je pense que clairement, ça participe à l'anxiété. Donc, soi-même se réguler, pas poster trop de documents sur le sujet. Et surtout, avoir des temps dédiés à l'information. Pas faire ça quand on est dans son lit avec son téléphone portable avant d'aller faire dodo. C'est une très, très mauvaise idée parce que là, on va réactiver le cerveau au moment anxieux. Là où, au contraire, il faudrait essayer de le détendre.
Gérard Lopez.
Oui, c'est tellement hypnotique que la dissociation qu'on a décrite, c'est un état hypnotique aussi. Sauf que l'hypnose, quand on l'utilise intelligemment, et c'est très, très efficace en matière de suite post-traumatique, hein, eh bien, c'est une dissociation qui est thérapeutique, qui est faite dans de bonnes conditions.
Qui est maîtrisée, oui.
Qui est maîtrisée, qui est relaxante.
Alors, tout ce dont on a parlé là, est-ce que aujourd'hui c'est bien reconnu, c'est-à-dire, par exemple, par rapport aux employeurs qui peuvent avoir des salariés qui sont touchés par ce type de traumatisme, est-ce qu'il est bien accepté que voilà, des personnes puissent être victimes de cela, que c'est grave, que ça doit être pris en charge et que
c'est
une maladie comme une autre.
Car les CUM ont eu, à mon avis, la chose extraordinaire qu'ont produit les CUM, c'est qu'elles ont fait sortir les psychologues et les psychiatres.
Je rappelle qu'il s'agit de ces cellules d'urgence médicaux.
Voilà, alors on dit CUMP quand on est dans le métier, on dit les CUMP. Eh bien, ça a permis que les psychiatres et les psychologues, qui étaient des gens qui travaillaient dans leur cabinet, le colloque singulier, etc., c'est extraordinaire, mais on les a vus sortir de leur cabinet, et maintenant on voit des psychiatres, des psychologues, être volontaires à la mairie du 11e, la mairie du 17e, nos psychologues qui y vont, etc. Ça a beaucoup changé la mentalité des psys et des psychologues et des psychiatres. Je pense que t'en penses.
Marine Kedia.
Moi, je trouve qu'il y a quand même un revers de la médaille à ça. Bah, c'est-à-dire qu'on a tendance à activer les psys de façon très systématique. On psychiatrise beaucoup la peur, la détresse, etc. Dans l'institution où je travaille en ce moment, je vois beaucoup de managers étaient extrêmement en alerte sur un tel a l'air d'aller mal, j'ai vu un tel pleurer, faut absolument envoyer le psy. Allons-y avec mesure aussi, c'est-à-dire que les gens se sentent pas bien, c'est normal. Qu'on soit triste, c'est normal. Et on n'a pas besoin d'un psy pour réguler tout ça systématiquement.
Il y a ce réflexe de création d'une cellule psychologique quasiment maintenant pour le moindre événement potentiellement traumatisant.
Ce qui est extrêmement critiqué, c'est normal.
Pas tellement, en fait. Ah,
si c'est critiqué, en tout cas chez les psys. Enfin, moi, peut-être. Le premier, le deuxième, on est tous là à critiquer
Maria
ça.
Kedia.
Je pense qu'il y a une espèce de facilité, effectivement, aujourd'hui, à se débarrasser du problème en se disant « on a envoyé un psy, donc c'est réglé, moi je m'en occupe pas ». Et typiquement, dans les institutions, je pense qu'aujourd'hui, sans appeler un psy, sans générer une cellule de crise spéciale, parce qu'il y a eu des attentats pour des gens qui sont du 15e cercle de personnes touchées, c'est abusif, honnêtement. En revanche, il peut y avoir de bonnes pratiques institutionnelles qui sont, par exemple, favoriser les jours de télétravail pour ceux qui peuvent le faire, avoir une plus grande tolérance pour les regroupements informels, c'est-à-dire les gens sont un peu plus facilement distraits, ont besoin de parler les uns avec les autres. Voilà, de ne pas être le manager qui est tout le temps sur le dos de ses collaborateurs parce qu'ils ne travaillent pas assez et pas suffisamment bien, c'est déjà très bien. Et ça suffit. Oui,
Aurore Sabourou-Séguin, sur... qu'est-ce qu'on peut conseiller, l'heure tourne, aux personnes qui ont un doute, par exemple, qui ne savent pas trop, parce que je pense que ce n'est pas facile de s'auto-diagnostiquer.
Je pense que les gens qui souffrent, ils n'ont pas de doute. Ils ne se sentent pas bien. Alors après, ceux qui ont été dans les événements, là non plus, ils n'ont pas de doute. Par contre, ils peuvent se sentir bien. Je pense qu'il faut qu'ils se laissent aller, qu'ils se distraient, qu'ils voient, qu'ils discutent avec les gens. Et s'ils ont un besoin, c'est-à-dire s'ils sentent que les symptômes, petit à petit, ont tendance à augmenter ou à s'enquister plutôt que de diminuer, il est très utile d'aller consulter quelqu'un pour en parler, pour voir ce qu'il faut faire. Quant au cercle très éloigné, je pense qu'il faut se détendre.
Et vous avez mentionné tous le côté social, des relations sociales, en dehors des psys.
Il y a beaucoup de gens qui ont dit, allez au café, allez au restaurant, sortez le soir. Ben oui,
Alors que ce qu'on constate, c'est plutôt le contraire. On constate plutôt une désertification de ces lieux au cours des derniers jours.
On a une semaine. Les gens ont été dans l'effroi, ils ont eu peur et ils veulent se protéger. La deuxième, une autre attitude aussi qu'il y a beaucoup, il faut se protéger. Hein. Comment on se protège? Il y a une phrase, j'en discutais avec une patiente ce matin, soyez vigilants. Maintenant, il faut être vigilant. Ça veut dire quoi? Être vigilant? Vigilant à quoi? Soyez vigilant pour vous protéger. C'est difficile. On ne dit pas, personne ne dit à quoi faut être vigilant, comment faut être vigilant. J'ai demandé à cette jeune femme qui était en Israël, elle m'a dit, nous on nous a appris à être vigilants, c'est-à-dire qu'on regarde les gens, et s'ils sont habillés bizarrement, c'est-à-dire avec un manteau quand il fait chaud, ou avec un gros sac, ou avec des chaussures inadaptées, quand il y a quelque chose qui nous choque visuellement par rapport à notre standard, eh ben on sort du bus. Voilà, c'est ça, être vigilant pour eux. Alors pour nous, qu'est-ce que c'est être vigilant? Je ne sais pas, je ne sais pas.
Mais pour vous, ça vous paraît excessif?
Non. Ça me paraît une réalité et excessif, oui, parce que qu'est-ce qui peut se passer
Non, c'est pas excessif.
Par exemple, un attentat dans le métro.
Là, pour l'instant, on n'est encore pas certain que toutes les personnes, tous les agresseurs aient été arrêtés.
Je pense que ce qu'on soulève comme sujet-là, c'est fondamental, c'est-à-dire la différence entre la peur et l'anxiété. Oui. Avoir peur, c'est adapter quand on est dans une situation qui est insécure. Et aujourd'hui, la situation demeure insécure. Oui. On a besoin de règles, effectivement, de qu'est-ce que c'est être vigilant. On nous dit ça comme ça, enfin les autorités disent ça sans donner d'indices de vigilance, donc il faut des consignes, il faut donner un cadre qui permet de retrouver un petit sentiment de contrôle à minima, et en même temps de l'autre côté il y a l'anxiété, c'est-à-dire une peur plus irrationnelle, plus anticipatoire, et quand on est dans une situation d'insécurité, c'est très difficile de faire la part entre les deux. Qu'est-ce qui est rationnel dans mes craintes? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et pour ça, je pense qu'effectivement, les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle d'information.
Alors, il y a le fait aussi que cette histoire n'est pas terminée. On est à une semaine seulement du drame. Et d'ailleurs, il se poursuit, puisque hier encore, on a parlé d'identification de l'un des agresseurs à Saint-Denis. Donc, comment... Quel conseil vous donneriez à des personnes qui se sentent peut-être un peu touchées par tout cela et qui sont encore soumises tous les soirs aux informations, aux nouvelles qui traitent du sujet, Gérard Lopez? Est-ce qu'en gros, quand on est un peu trop sensible à tout cela, il vaut peut-être mieux ne pas être de nouveau soumis aux images?
Mais passer des heures à voir des images en boucle, c'est vraiment pas bon parce que ça réactive les choses. Écoutez, moi j'ai une patiente qui était dans l'avion, là, vous savez, Alger, Paris, vous rappelez, en 95, à Noël, etc. Hein, vous verrez dans quel état elle est. Et alors je me souviens, on avait tout un groupe, un institut de personnes de cet avion, à LCI, c'était le générique. Vous imaginez? Et ce sont les victimes qui ont réussi à obtenir qu'on retire ce générique. Parce qu'à chaque fois, elles étaient reconfrontées à ce qu'elles redoutent. Alors être reconfronté à ce qu'on redoute quand on est entre les mains d'Aurore Sabourot-Seguin qui vous fait de la relaxation, une exposition, c'est très bien. Mais quand vous êtes devant une télévision tout seul, c'est pas bien du tout. Faut arrêter d'être exposé en permanence, mais tout le monde l'a dit, à des images comme ça qui relancent la machine, le magnétoscope.
Marianne Kédia.
Je pense que la question que vous posez, j'ai presque envie de vous la retourner en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, là, en quelques mois, on a eu deux attentats très graves en France. Il est important aussi que les journalistes se familiarisent avec cette thématique-là parce qu'ils jouent un rôle très important et que ça pose des questions éthiques. On voit des personnes immédiatement interviewées alors qu'elles viennent de sortir du Bataclan, qui ne sont pas floutées. On voit des images qui sont passées sans aucune analyse, etc. Et bien sûr, c'est pas le métier des journalistes de connaître le travail des psys, mais en revanche, là, clairement, on sait qu'il y a un rôle à jouer du côté des médias sur le traitement de l'information pour une problématique que j'aimerais qualifier quasiment de santé publique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, se poser ces questions-là en collaboration, psy et journaliste, c'est un vrai enjeu.
Aurore Sabourot-Séguin.
Je vais renforcer ce que dit Marianne. Un journaliste m'a demandé on peut venir filmer vos consultations au centre. On voudrait voir des victimes. J'ai dit non. Vous pourriez venir au centre nous parler à nous, mais vous ne verrez pas de victimes. Ils m'ont répondu. Alors ça ne nous intéresse pas. C'est quand même difficile. C'est pas le respect il faut comprendre ce que c'est qu'être victime dans un événement pareil. Et effectivement, il faut avoir un peu de compassion, mais la bonne compassion.
Très bien, merci beaucoup. Malheureusement, le débat de Science Publique d'aujourd'hui s'achève. Merci à Marianne Kedia, Gérard Lopez et Aurore Sabourossé-Guin d'y avoir participé. Sur notre site, vous pourrez trouver des références d'institutions dont nous avons parlé et auxquelles vous pouvez faire appel pour trouver une aide psychologique à la suite de ces attentats du 13 novembre. Sur le site de Science Publique, vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et la podcaster pendant un an. Et vous pouvez, je vous le rappelle, nous faire part de vos témoignages sur notre site. La semaine prochaine, vendredi 27 novembre, Science Publique participera à la semaine spéciale que les émissions de Culture Science consacrent à la COP21, à la veille de l'ouverture de cette conférence, donc sous l'angle « L'homme et son environnement, regard croisé ». Pour notre part, nous débattrons de la question de l'adaptation à un changement climatique désormais, pour une part, inéluctable, et nous verrons comment le GIEC peut évoluer pour que la science accompagne ce réchauffement du climat. Après la phase nécessaire d'alerte et de tentative d'atténuation, nous entrons ainsi dans une nouvelle période qui sera décisive en matière d'impact du réchauffement sur la société. Nous en débattrons avec nos invités, parmi lesquels Jean Jouzel et Hervé Le Treut. Science Publique, Dany Journeau, Jacques Hubert, Marie Dalquier, Michel Alberganti. Nous vous laissons en compagnie des Bonnes Feuilles. Merci à tous. Excellent après-midi sur France Culture.